Faire confiance, d'abord, on peut noter que c'est un acte. Il y a le verbe faire. C'est donc quelque chose qui demande un mouvement de notre part. Ce qui veut dire, cette chose qui peut être moins évidente, c'est que ce n'est pas une vertu, la confiance. Parce qu'une vertu, c'est quelque chose dont on dispose et que l'on entretient et que l'on fait grandir à l'intérieur de soi-même, mais c'est quelque chose de statique. On l'a, tant mieux, on la fait grandir. Alors que là, il s'agit d'agir. Il y a des actes à poser. L'étymologie du mot confiance, vous la connaissez, ça veut dire en gros se fier à quelqu'un. C'est donc non seulement un acte, mais c'est un acte relationnel. Donc on a, pour faire confiance, il faut agir à l'égard de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Alors, ces choses-là sont essentielles parce qu'on va les utiliser après pour pouvoir comprendre comment avancer à la lueur de ce livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Bible. Ouais, bah oui, ce sera quand même assez inspiré de ce qu'on trouve dans la Bible. Voilà. Donc, la confiance, ce n'est pas une chose qui tombe du ciel, c'est moins lié à nos qualités personnelles qu'aux actes que l'on produit dans nos relations les uns avec les autres. Voilà, tout ça est très général, mais ça va nous aider à entrer dans les choses plus particulières. Alors, dans le langage religieux, vous le savez, faire confiance, ça se traduit dans un langage un peu différent par donner sa foi. Donner sa foi ou faire confiance, c'est à peu près la même chose. Mais c'est toujours, il y a un verbe actif derrière. Dans le domaine théologique, ce qui est un domaine quand même un peu particulier, il veut dire que c'est Dieu qui est concerné par cet acte. Dieu concerné par l'acte de donner sa confiance. Quand je dis « je crois en Dieu », alors certains disent ou s'interrogent « mais est-ce que Dieu existe ?» Eh bien là, on est en dehors, il me semble, d'une préoccupation qui pourrait être intéressante pour nous. Parce que lorsqu'on dit « je crois en Dieu », il s'agit bien plus de se référer à ses actes, donc à ses choix de vie, à la manière dont on s'engage vis-à-vis de Dieu. Vous voyez la différence, hein, entre se torturer l'esprit pendant de longues années en se demandant si Dieu existe ou s'il n'existe pas, et le fait de s'engager. Ouais, c'est un peu la différence entre la vertu et l'acte relationnel, si vous voulez. Donc, je fais confiance en Dieu et je lui manifeste par des actes. Mais vous allez me dire, si vous êtes un tout petit peu critique, j'espère que vous l'êtes, parce que la fonction d'enseignant suppose une certaine critique, au moins le recevoir de la part de ses élèves. Pourquoi est-ce que je ferai confiance à Dieu, au fond? Je ne sais pas si vous vous posez cette question, pourquoi est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Eh bien, il ne faut pas chercher la réponse à l'intérieur de vous-même, parce que vous ne l'y trouverez pas. La réponse, elle n'est pas en moi, elle est en Dieu lui-même. Parce qu'il s'agit d'un acte relationnel. Ce qui nous renvoie tout de suite à une autre question, qui va avec la précédente, pourquoi est-ce que je ferai confiance à Dieu? Mais plutôt, donc, celle sur laquelle je vais m'apesantir, comment Dieu fait-il pour que nous ayons confiance en lui? Qu'est-ce que Dieu fait? C'est un acte relationnel à notre égard. Qu'est-ce qu'il fait pour que nous ayons confiance en lui? Le déplacement de la question fait qu'on ne s'interroge plus sur soi-même, mais sur un autre, et que donc nous sommes enseignés par quelqu'un plutôt que nous essayons de nous enseigner nous-mêmes. Alors, si vous êtes enseignant, je pense que la plupart d'entre vous l'êtes quand même en partie, voire beaucoup, eh bien, il faut vous mettre dans la situation de Dieu. C'est prétentieux. Attention, c'est très engageant. Voilà. C'est-à-dire, je veux dire par là que vous êtes en face de gens qui doivent vous faire confiance. D'accord ? Alors on espère qu'ils vous font confiance, sinon ça va poser quelques problèmes. Alors, bien sûr, vous êtes invité à faire confiance aux élèves, aux parents, ou à l'institution, etc. Mais ça, finalement, c'est assez secondaire. Ce qui importe plutôt, c'est que vous êtes les acteurs. C'est vous qui allez agir. Et que la question que vous posez, c'est que faut-il que je fasse pour que les autres me fassent confiance ? Donc, vous êtes à la place de Dieu, puisque c'est la question qu'on pose par rapport à Dieu. Alors, que devez-vous faire pour que vos élèves, leur famille, vous fassent confiance ? Alors, on peut interroger la psychologue de l'établissement, on peut interroger l'anthropologie, on peut interroger le spécialiste de la pédagogie. Moi, je vais interroger la théologie. Donc, attendez-vous à une réponse étrange venue d'ailleurs. Ah oui. Qu'est-ce que dit la théologie sur cette question-là ? Comment Dieu fait-il pour que nous ayons confiance en lui ? Donc, je vais prendre, si vous voulez, Dieu comme modèle pédagogique. Ah ben, moi, je ne sais pas faire autrement. Hein. En théologie, c'est ce qu'on fait. Voilà, alors je vous invite à me suivre. Voilà. Et il le montre, Dieu agit pour que nous ayons confiance en lui, à travers donc des actes relationnels, comme je l'ai dit, mais pas n'importe quels actes. Ce sont des actes qui ont des caractéristiques tout à fait particulières. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc on va essayer de se demander comment est-ce que Dieu agit. Alors quand on ouvre la Bible, on voit les hauts faits de Dieu. Il y a beaucoup de textes, des psaumes, mais d'autres textes, qui nous parlent des hauts faits de Dieu. Pourquoi on nous parle de ça ? Alors ça pourrait être pour susciter de notre part l'émerveillement. Ah, oh, Dieu est grand, merveilleux, extraordinaire. Eh bien moi je pense plutôt qu'il exprime les processus qu'il met en œuvre pour susciter la confiance. Et dans quel genre de relation il entre avec nous pour que cette confiance existe. Vous voyez ? C'est pas tout à fait le même point de vue. Hein. Alors, je vous propose d'essayer de percevoir quelles sont les clés de la méthode de Dieu pour inspirer la confiance. Ah, mais donc, tel que la Bible en parle, hein, évidemment. Alors évidemment, pour arriver à répondre à une question comme ça, il faut lire toute la Bible. Je vous en ferai grâce. Il faut faire des synthèses. Je vous en ferai grâce. Je donnerai que les résultats. Alors la réponse, je vous la donne. Alors, il y a deux catégories de réponses. Il y a des choses que Dieu ne fait jamais. Il faut le savoir. Et puis il y a des choses qu'il fait toujours. Oui, au point de vue philosophique, c'est plutôt simple. Hein. On ne cherche pas la complexité. Ça va être très facile. Plus facile que de fermer les fenêtres. Mais... Alors bon, quand je dis tout ça, de manière extrêmement simplifiée, et il faut aussi se rendre compte que ce que je vais vous dire est présent dans la plupart des auteurs bibliques, mais que c'est surtout clair dans les récits de la Genèse, en grande partie dans le livre de l'Exode, dans le Pentateuque, et dans le Nouveau Testament, que on a l'impression que ça se cherche dans d'autres textes, mais c'est plus clairement exprimé, je crois, dans le livre de la Genèse, en particulier dans le livre de l'Exode. Alors je vous donne la formule, c'est vraiment une formule de ce que Dieu ne fait jamais. Qu'est-ce que Dieu ne fait jamais ? Eh bien, Dieu n'utilise jamais une négation de la négation. Alors, je vais vous expliquer. C'est la formule. Pas de négation de la négation. Mais au contraire, toujours mettre du positif sur du négatif. Voilà donc ce qu'il ne fait jamais est ce qu'il fait toujours. Pourquoi ? Alors je dis ça, il faut le comprendre d'une manière relationnelle, pas de manière mathématique, parce que la logique n'est pas du tout la même. Vous savez très bien que moins par moins, donc négatif avec, associé à du négatif, en maths, ça peut faire du positif. Les profs de maths, c'est d'accord ? Bon, eh oui. Certains philosophes associent des doubles négations pour essayer de faire surgir des choses nouvelles. La négation de la négation appliquée à quelque chose de ce genre fait qu'on arrive à du neuf. C'est en niant le négatif que surgirait le positif. Ce qui a, on trouve ça chez Hegel, ça a donné aussi dans d'autres pensées dérivées de Hegel, la pensée de ce qu'on appelle les contradictions. Les choses se détruisent elles-mêmes, ce qui fait surgir la nouveauté. C'est comme ça que l'histoire avancerait, pour dire court. Du point de vue relationnel, c'est complètement faux. Clair. Tout spécialement du point de vue de la relation à Dieu et de la relation à Dieu avec nous. Ça veut dire que la négation d'une négation, c'est destructeur de l'identité de la personne. Positif, le mot positif, ça veut dire plutôt constructeur de l'identité de la personne. On va dire ça comme ça. Mais on n'est pas du tout dans le même registre que les mathématiques. On est dans le domaine relationnel, ce qui est tout à fait autre chose. C'est pas la même logique, c'est pas les mêmes qualités d'expression et les contenus n'ont rien à voir. Alors, comment est-ce qu'on peut prouver ça et le décrire de manière plus précise à travers des exemples tout à fait probants ? On en trouve plein dans le livre de la Genèse, je le disais tout à l'heure. Alors, bon, il faudrait faire beaucoup de travail, mais je donne un exemple. Nier celui qui vous nie. Donc faire une double négation, si vous voulez, c'est la problématique du péché originel. Sauf preuve du contraire, ce n'est pas catalogué dans les bonnes choses. Voilà. Donc de ce double négation-là, il ne sort pas quelque chose de positif. Bien que je sache qu'on dise bienheureuse faute originelle. Ne pas abuser de cette formule. Ne pas abuser. Ne pas transmettre aux élèves, surtout. Parce que ça, alors là, bon... Dans tous les cas, le péché originel tel qu'il est décrit dans sa manifestation dans l'histoire de Caïn et Abel, ça conduit au meurtre. Caïn pense, vous connaissez l'histoire, hein, je ne vous lis pas les textes, hein, vous les avez en tête. Bon. Caïn pense que l'agrément reçu par Abel aurait dû lui revenir, à lui personnellement. Donc il pense que l'attitude de Dieu à l'égard de son frère, ni sa propre identité. Vous êtes d'accord jusque-là ? Ok. C'est une première négation. Et il répond comment, ce fichu Caïn ? Il répond à travers une deuxième négation, ce qui fait une double négation, en détruisant son frère, ce qui a pour conséquence de le détruire lui-même. Ok ? Voilà. Ça, c'est une double négation, voyez ? Conséquence terrible de cet acte, puisque les effets de la destruction de sa propre identité à travers cette double négation va l'atteindre et toute sa descendance. La Bible, si vous la lisez, elle insiste assez fortement sur ses conséquences, mais elle insiste encore plus sur l'intervention de Dieu pour protéger Caïn. Ça vous a peut-être toujours surpris. Pourquoi est-ce que Dieu protège Caïn ? Ça vous dit quelque chose, ça, dans la Bible ? Dieu protège Caïn. Voilà. L'humanité de Caïn serait détruite si Dieu n'arrivait pas en donnant un élément positif pour reconstruire l'identité de Caïn et le protéger des conséquences de son acte. Donc vous voyez, dans la logique relationnelle, la négation appliquée à une négation qui précède additionne les négations et est destructeur de l'identité et destructeur de l'humanité en l'occurrence. Or, la Bible montre ça en abondance. Des tas de passages là-dessus. Dans le livre de la Genèse, beaucoup. Mais aussi dans le livre de l'Exode. Alors, cette attitude inverse qui aurait consisté à refuser de se laisser aller à la vengeance dans une deuxième négation n'est pas donnée, décrite comme exercée par l'homme. C'est décrit comme étant exercée par Dieu. N'empêche que nous pouvons nous en inspirer, puisque, je vous le disais, nous prenons la place de Dieu pour notre propre comportement. Voilà. Et donc, le fondement de la confiance, ça va être quoi? Eh bien, de répondre positivement à une action négative qui s'adresse soit à notre égard ou que nous voyons adressée à quelqu'un d'autre. Autrement dit, selon le mode d'action de Dieu, on fait confiance à celui qui nous fait grandir en humanité, positif, celui qui nous relève, accroît ce que nous sommes, augmente notre identité, nous aide à la définir, ce qui, après tout, est peut-être une certaine vocation des enseignants quand même. Exemple.